Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir, serviteurs et serviteurs des quatre coins du monde. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Notre émission va commencer par le journal suivi du commentaire et l'histoire d'aujourd'hui.
La voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme Le Journal. Nous commençons avec les titres. Le ministre Retno Marsudi espère la réunion FTF-CBT pour renforcer la lutte contre le terrorisme. Wiranto a transmis que le gouvernement développerait la technologie drone. L'Indonésie doit pouvoir prévenir le défi mondial de l'environnement stratégique. Le président Jokowi a reçu le président de la Banque mondiale et enfin la cinquième réunion de JCBC Indonésie là-haut. Voici le grand complet. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, espère que la réunion sous-régionale sur la lutte contre les terroristes étrangers et le terrorisme transfrontalier conduit à créer des mesures de lutte contre le terrorisme. Après avoir assisté mercredi à la réunion limitée du cabinet au bureau présidentiel à Jakarta, la ministre Retno a déclaré que la réunion tenue le 29 juillet pourrait renforcer les mesures de lutte contre le terrorisme qui ont été établis par les pays membres de l'ASEAN.
Subregional, ini seharusnya kan menjadi building block, jadi tidak ada overlapping, tetapi saling melengkapi.
Le sous-régional devrait être une mesure de bloc de construction, de ne pas se chevaucher, mais de renforcer la coopération au sein de l'ASEAN et de l'ASEAN Plus. Alors qu'à l'ASEAN, il y a une convention de lutte contre le terrorisme. L'ASEAN a également mené une coopération avec ses partenaires, mais nous devons renforcer notre coopération en créant des blocs pour créer une réponse immédiate à ces défis. L'Indonésie accueillera la réunion sous-régionale sur le terrorisme étranger et le terrorisme transfrontalier à Manado, Sulawesi du Nord, le 29 juillet. La réunion sera suivie par six pays situés autour des eaux de Sulu, à savoir l'Indonésie, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, le Brunei Darussalam, la Malaisie et les Philippines. Le thème de la réunion est « Améliorer la lutte domestique et collective ». Auparavant, le ministre coordinateur des affaires politiques, juridiques et de sécurité, Wiranto, a mené une réunion préparatoire au sujet de la réunion sous-régionale. Il a déclaré que la réunion préparatoire était axée sur l'apprentissage de l'anatomie, des conditions et des situations dans le sud des Philippines avant d'être traité conjointement. Wiranto a également déclaré que tout le pays de l'Asie du Sud-Est a convenu de garder le territoire pour ne pas devenir une nouvelle base d'ISIS. Le ministre indonésien chargé de la coordination des affaires politiques, juridiques et de sécurité, Wiranto, a déclaré que le gouvernement développerait une industrie du drone qui peut être utilisée pour les intérêts militaires et civils. Cela a été transmis après avoir assisté à la réunion limitée du cabinet sur la politique d'approvisionnement du système principal d'armement défensif, Alutsista, mercredi au bureau présidentiel à Jakarta. Wiranto expliquait que le gouvernement considère le développement de drones comme tenu du faible coût requis, mais capable de toucher toutes les régions d'Indonésie. Il a déclaré que la considération du développement du drone visait également à protéger le budget des dépenses de l'État avec des résultats maximums. Wiranto a ajouté que le développement de l'industrie du drone constituerait également un facteur dissuasif pour la possibilité de menacer la défense nationale. En outre, la présence de drones devrait également accroître la diplomatie étrangère de l'Indonésie parmi la communauté mondiale. Nous savons que dans le futur, il y aura une nouvelle technologie qui est moins chère, mais qui peut aussi atteindre le territoire national pour les intérêts militaires, de défense ou civils, à savoir drones. Le drone est également l'un de nos objectifs de développer l'industrie du drone afin qu'il puisse être multifonctionnel. Nous pouvons l'utiliser à des fins militaires ainsi que pour des intérêts civils. Par conséquent, nous devons maintenant entrer dans un tel concept. Néanmoins, nous devons également renforcer nos systèmes d'armes pour les facteurs dissuasifs afin de rester respectés par d'autres pays en termes de diplomatie internationale. Nous ne serons pas sous-estimés si nous ne sommes pas forts. En outre, le ministre coordinateur des affaires politiques, juridiques et de sécurité, Wiranto, a également déclaré que le gouvernement indonésien assurera l'achat d'armement défensif à l'Alutsista qui peut donner des résultats maximum. Selon lui, l'achat d'équipements de défense sans la considération approfondie perturbera l'affectation du budget de l'État qui est également utilisé pour soutenir le développement national dans divers domaines. Auparavant, le président Joko Widodo, dans l'ouverture de la réunion limitée du cabinet sur la politique d'approvisionnement du système principal d'armement défensif ou Alutsista, a averti que l'achat de l'Alutsista devrait considérer le cycle de vie de l'équipement. Il espère que l'équipement de défense acheté peut être utilisé pendant au moins 20 ans. Le président a également indiqué que l'achat de l'Alutsista devait être effectué par un système de coopération intergouvernementale ou GAG et mis en œuvre avec l'ouverture et le respect du principe de responsabilité. Le monde international progresse progressivement de nombreux aspects. Ce progrès doit être anticipé par l'Indonésie car il peut amener la menace de l'État. C'est ce qu'a affirmé le ministre indonésien de la Défense, Ria Mizar Yakudu, à la réunion d'orientation coordonnatrice pour le secteur de l'université liée au Conseil de défense de l'État au ministère de la Défense à Jakarta mercredi. Le dynamisme stratégique du développement environnemental à l'échelle mondiale, régional et national a indiqué de grands défis et une complexité pour la défense de l'État, en particulier pour garder la souveraineté et l'intégrité du territoire. Ce défi a évalué à une menace stratégique pour la souveraineté et l'intégrité de la nation et le sauvetage de la nation. Et il deviendra un défi multidimensionnel physique et non physique à l'échelle nationale et mondiale. Le ministre indonésien de la Défense, Ria Mizar Yakudu, a également expliqué que l'un des efforts pour faire face aux défis mondiaux est d'accroître la compréhension de la défense de l'État pour les Indonésiens. En prenant conscience de la défense de l'État pour les Indonésiens, l'Indonésie sera plus préparée et capable de faire face aux défis environnementaux stratégiques du développement international. Le président Joko Widodo a dit que la visite du président de la Banque mondiale, le Dr Jim Yong Kim, et sa délégation en Indonésie cette semaine, dans le cadre d'un voyage à l'avance d'une réunion de la Banque mondiale et le Fonds monétaire international l'année prochaine à Bali. Il a été dit par le président lors de la visite de Jim Yong Kim et la délégation au palais présidentiel de Jakarta mercredi. À cette occasion, le président Joko Widodo a exprimé son appréciation pour le partenariat solide de la Banque mondiale avec le gouvernement indonésien. La Banque mondiale a contribué à améliorer la structure et la qualité fiscale de l'Indonésie. La Banque mondiale a fait un travail important avec l'Indonésie dans l'éradication de la pauvreté, les investissements en capital humain, tels que l'amélioration de la santé, l'éducation et la lutte contre le changement climatique. Jim Yong Kim a déclaré dans une conférence de presse que sa visite en région de l'Indonésie et le président Joko Widodo ont de grands idées pour le pays et le peuple indonésien. La Banque mondiale tiendra la réunion annuelle et l'Indonésie comme l'autre sera utilisée comme l'un des endroits dans le monde pour les investisseurs à investir. L'Indonésie et le Laos organisent la 5e réunion de la Commission conjointe pour la coopération bilatérale, JCBC, à Jakarta, du 26 au 27 juillet 2017. Le ministère indonésien des Affaires étrangères a accueilli la cinquième réunion de JCBC entre l'Indonésie et le Laos, comme indiqué dans un communiqué de presse du ministère des Affaires étrangères reçu par La Voix d'Indonésie à Jakarta mercredi. Le ministre des Affaires étrangères du Laos, Salem Saïd Komasit, est venu en Indonésie pour assister à la réunion pour commémorer 60 ans de relations diplomatiques entre les deux pays qui ont été mis en place depuis 1957. Lors de la visite officielle, le ministre Salem Saïd Komasit fera une visite de courtoisie au vice-président Yusuf Kalla. La cinquième réunion de JCBC se compose de deux autres deux jours principaux, à savoir la réunion ministérielle qui se tient le 27 juillet 2017 et la réunion des hauts fonctionnaires tenue le 26 juillet 2017. La réunion ministérielle, présidée conjointement par la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, et son homologue du Laos, Salem Saïd Komasit. Pendant ce temps, la réunion des hauts fonctionnaires qui a précédé la réunion ministérielle a été dirigée par le directeur général pour l'Asie, Pacifique et l'Afrique du ministère indonésien des Affaires étrangères, Desra Percaya, et le vice-ministre des Affaires étrangères du Laos, Kam Fau Entavan. L'Indonésie et le Laos se sont engagés à renforcer la coopération économique bilatérale en explorant les possibilités d'investissement et d'améliorer l'interaction entre les deux secteurs économiques des deux pays. Serviteur, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Rani, quelle brochure que tu lis?
Eh bien, Andy, je lis les brochures des sites touristiques d'Indonésie. Il s'avère que c'est amusant et stimulant. Les paysages sont aussi beaux. Dis donc, quel site dois-je choisir?
Pourquoi pas Joglosemar? C'est abrégé de trois villes à Java, Yogyakarta, Solo et Semarang. Joglosemar est l'une des 10 destinations touristiques en Indonésie. Ce n'est pas loin de Jakarta et le centre de Java.
Bien, comme ça, je viendrai à Joglosemar.
Réalisez votre rêve de passer des vacances à Joglosemar, Indonésie, en participant au quiz international 2017 de la Voix de l'Indonésie. Répondez aux questions suivantes. 1. Mentionnez des programmes de la Voix de l'Indonésie et quel est votre programme préféré? 2. Dans quel langue de programme écoutez-vous la Voix de l'Indonésie? 3. Dans quelle façon écoutez-vous la Voix de l'Indonésie? 4. Donnez des suggestions pour l'amélioration de la Voix de l'Indonésie. 5. Racontez brièvement ce que vous avez à propos de l'Indonésie. Envoyez, s'il vous plaît, vos réponses avec vos données personnelles, le numéro et la date d'expiration de votre passeport à voiinternationalquiz@voi.co.id avant le 1er août 2017. Bienvenue à l'Indonésie.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par internet sur le site www.voi.co.id.
Chers amis, après le journal, nous vous présentons maintenant le commentaire ayant pour le titre « Mettre fin à la pauvreté chez les enfants ». Mettre fin à la pauvreté chez les enfants est un effort à entreprendre en permanence par le gouvernement mondial, y compris l'Indonésie. La pauvreté enfantile ne se limite pas au non-respect des besoins fondamentaux généralement mesurés par l'aspect monétaire. Elle peut également être mesurée par des aspects plus larges et multidimensionnels. Par exemple, les enfants pauvres sont difficiles à avoir accès à des logements adéquats, à des aliments adéquats sur le plan nutritionnel, à des services de santé et d'éducation et au droit de recevoir l'enregistrement des naissances. Nous savons tous que les enfants pauvres ne disposent pas d'un accès adéquat aux bons soins de santé, à la malnutrition et à la négligence. La pauvreté peut forcer les enfants dans les rues où ils sont confrontés à une exploitation et à des mauvais traitements. Il encourage aussi le mariage précoce. Bien que le nombre de pauvres ait diminué au cours de la dernière décennie, plus de 11 millions d'enfants indonésiens sont encore en dessous du seuil de pauvreté nationale. Ceci a été rapporté par le chef du Bureau central des statistiques, Kecuk Suharyanto, lors du lancement du livre « L'analyse de la pauvreté des enfants et la privation des droits fondamentaux des enfants en Indonésie » à Jakarta, mardi le 25 juillet 2017. Les enfants qui grandissent dans la pauvreté ont tendance à faire des résultats insatisfaisants dans les écoles ou à cesser leurs études. Cela perturbe la transition d'éducation au travail et entraîne un risque désavantageux pour la croissance économique de l'Indonésie. Espérons qu'avec les efforts du gouvernement, l'Indonésie peut mettre fin à la pauvreté des enfants et tous peuvent bénéficier d'un gouvernement solide et stable. Chers auditeurs, c'était le commentaire pour ce soir.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec l'histoire d'aujourd'hui qui s'agit d'événements importants. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec la découverte de l'insuline. À l'Université de Toronto, le docteur Frederick Green Benting et son assistant Charles Herbert Bass isolent une hormone pancréatique appelée l'insuline. Testée sur un chien auquel les chercheurs ont enlevé le pancréas, l'insuline permet de recréer artificiellement les essences de sucre dans l'organisme de l'animal. Cette découverte va constituer une révolution médicale dans le traitement du diabète. Frederick Green Benting, Charles Herbert Bass et leur collaborateur James Richard McLeod, chef de laboratoire, et James Bertram Collip, chimiste, recevront le Nobel de médecine en 1923. L'autre information est sur De Havilland Comet. Le De Havilland DH106 Comet est le premier avion de ligne à réaction à entrer en production. Développé et construit par De Havilland dans son quartier général à Hartford, dans le Hertfordshire au Royaume-Uni, le prototype Comet 1 vole pour la première fois le 27 juillet 1949. Il a une apparence aérodynamiquement épurée avec quatre turboréacteurs De Havilland situés dans les ailes, une fuselage pressurisée et de grandes vitres carrées. À cette époque, il offrait une cabine passagère relativement silencieuse et confortable et montre des signes de succès commercial à son entrée en service en 1952. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec la fin de la guerre de Corée, 27 juillet 1953. Guerre de la Corée qui a duré du 25 juin 1950 jusqu'au 27 juillet 1953 est le conflit entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Cette guerre est aussi appelée guerre mandatée entre les alliés de la Corée du Sud, à savoir les États-Unis, l'Australie et la Nouvelle-Zélande et les alliés de la Corée du Nord, tels que la République populaire de Chine et l'Union soviétique. La guerre a pris fin le 27 juillet 1953, lorsque les États-Unis, la République populaire de Chine et la Corée du Nord ont signé un accord de cessez-le-feu Pendant ce temps, le président de la Corée du Sud, à cette époque, a refusé de le signer, mais a promis de respecter l'accord de cessez-le-feu. Cette bataille était arrêtée, mais les deux Corées sont techniquement toujours dans un état de guerre. Cher auditeur, c'était l'histoire d'aujourd'hui de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Cher auditeur, avant d'écouter le rappel de titre de l'actualité, nous vous présentons d'abord la mise au point.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Cher auditeur, voici donc la mise au point et pour le titre, la communauté économique de l'ASEAN demande de main-d'œuvre conformément aux besoins des entreprises et de l'industrie. L'ère de la communauté économique de l'ASEAN, ou CEA, exige non seulement la présence d'une main-d'œuvre qualifiée et compétente, mais elle doit aussi être conforme aux besoins des entreprises et de l'industrie, comme indiqué par le chef du Centre de développement de pratiques de travail, WBPLK, de la région de Serang, Fauzia, vendredi au ministère du Travail. L'ajustement à ces besoins est important, de sorte que les travailleurs indonésiens peuvent être rapidement absorbés par le monde industriel et commercial. Selon Fauzia, l'ajustement a été fait par le Centre de développement de pratiques de travail WBPLK de Serang en coopérant avec des centaines d'entreprises. Chaque entreprise a contribué à adapter le programme et fournir information au travail des stagiaires. L'industrie connaît leurs besoins. Actuellement, il y a 335 entreprises partenaires qui sont impliquées directement dans la formation. Fauzia a déclaré que les stagiaires travaillant à WBPLK de Serang étaient directement absorbés par l'industrie après l'obtention du diplôme et ils pouvaient travailler. Le Centre de développement pour la pratique de travail WBPLK de Serang possède des programmes de formation de travail sur la base de la formation axée sur les compétences OPBK qui est conforme au programme de revitalisation, rebranding et réorientation 3RBLK tels que technique de soudage et de l'électrotechnique. La formation axée sur les compétences est soutenue par trois piliers principaux. Tout d'abord, pour développer les ressources humaines supérieures, on a besoin des normes de compétences du Travail national de l'Indonésie, SWKNI. La seconde, la formation axée sur les compétences qui met l'accent sur la maîtrise des capacités de travail, y compris les connaissances, les compétences et les attitudes conformément aux normes établies dans le lieu de travail. Le pilier suivant est la certification des compétences qui est réalisée systématiquement et objectivement par des tests de compétences selon les normes de compétences et réalisée par l'organisme qui a le pouvoir. Selon Fauzia, elle a reçu les participants des diplômés de l'école professionnelle et aussi les personnes handicapées, même les diplômés des écoles à la communauté locale. Jusqu'à présent, les participants à la formation de l'emploi attendent 774 personnes. Serviteur, c'était la mise au point pour ce soir. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, espère que la réunion régionale sur la lutte contre les terroristes étrangers et le terrorisme transfrontalier conduit à créer des mesures de lutte contre le terrorisme. Après avoir assisté mercredi à la réunion limitée du cabinet au bureau présidentiel à Jakarta, la ministre Retno a déclaré que la réunion tenue le 29 juillet pourrait renforcer les mesures de lutte contre le terrorisme qui ont été établis par les pays membres de l'ASEAN.
Subregional, ini seharusnya kan menjadi building block, jadi tidak ada overlapping, tetapi saling melengkapi.
Le sous-régional devrait être une mesure de bloc de construction, de ne pas se chevaucher, mais de renforcer la coopération au sein de l'ASEAN et de l'ASEAN Plus. Alors qu'à l'ASEAN, il y a une convention de lutte contre le terrorisme. L'ASEAN a également mené une coopération avec ses partenaires, mais nous devons renforcer notre coopération en créant des blocs pour créer une réponse immédiate à ces défis. l'Indonésie accueillera la réunion sous-régionale sur le terrorisme étranger et le terrorisme transfrontalier à Manado, Sulawesi du Nord, le 29 juillet. La réunion sera suivie par 6 pays situés autour des eaux de Sulu, à savoir l'Indonésie, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, le Brunei Darussalam, la Malaisie et les Philippines. Le thème de la réunion est « Améliorer la lutte domestique et collective ». Auparavant, le ministre coordinateur des affaires politiques, juridiques et de sécurité, Wiranto, a mené une réunion préparatoire au sujet de la réunion sous-régionale. Il a déclaré que la réunion préparatoire était axée sur l'apprentissage de l'anatomie, des conditions et des situations dans le sud des Philippines avant d'être traité conjointement. Wiranto a également déclaré que tout le pays de l'Asie du Sud-Est a convenu de garder le territoire pour ne pas devenir une nouvelle base d'ISIS. Le ministre indonésien chargé de la coordination des affaires politiques, juridiques et de sécurité, Wiranto, a déclaré que le gouvernement développerait une industrie du drone qui peut être utilisée pour les intérêts militaires et civils. Cela a été transmis après avoir assisté à la réunion limitée du cabinet sur la politique d'approvisionnement du système principal d'armement défensif, Alutsista, mercredi au bureau présidentiel à Jakarta. Wiranto expliquait que le gouvernement considère le développement de drones comme tenu du faible coût requis, mais capable de toucher toutes les régions d'Indonésie. Il a déclaré que la considération du développement du drone visait également à protéger le budget des dépenses de l'État avec des résultats maximaux. Wiranto a ajouté que le développement de l'industrie du drone constituerait également un facteur dissuasif pour la possibilité de menacer la défense nationale. En outre, la présence de drones devrait également accroître la diplomatie étrangère de l'Indonésie parmi la communauté mondiale. Nous savons que dans le futur, il y aura une nouvelle technologie qui est moins chère, mais qui peut aussi atteindre le territoire national pour les intérêts militaires, de défense ou civils, à savoir drones. Le drone est également l'un de nos objectifs de développer l'industrie du drone afin qu'il puisse être multifonctionnel. Nous pouvons l'utiliser à des fins militaires ainsi que pour des intérêts civils. Par conséquent, nous devons maintenant entrer dans un tel concept. Néanmoins, nous devons également renforcer nos systèmes d'armes pour les facteurs dissuasifs afin de rester respectés par d'autres pays en termes de diplomatie internationale. Nous ne serons pas sous-estimés si nous ne sommes pas forts. En outre, le ministre coordinateur des affaires politiques, juridiques et de sécurité, Wiranto, a également déclaré que le gouvernement indonésien assurera l'achat d'armement défensif à l'Alutsista qui peut donner des résultats maximum. Selon lui, l'achat d'équipements de défense sans la considération approfondie perturbera l'affectation du budget de l'État qui est également utilisé pour soutenir le développement national dans divers domaines. Auparavant, le président Joko Widodo, dans l'ouverture de la réunion limitée du cabinet sur la politique d'approvisionnement du système principal d'armement défensif, ou Alutsista, a averti que l'achat de l'Alutsista devrait considérer le cycle de vie de l'équipement. Il espère que l'équipement de défense acheté peut être utilisé pendant au moins 20 ans. Le président a également indiqué que l'achat de l'Alutsista devait être effectué par un système de coopération intergouvernementale ou GAG et mis en œuvre avec l'ouverture et le respect du principe de responsabilité. Le monde international progresse progressivement de nombreux aspects. Ce progrès doit être anticipé par l'Indonésie car il peut amener la menace de l'État. C'est ce qu'a affirmé le ministre indonésien de la Défense, Riami Jatiyakudu, à la réunion d'orientation coordonnatrice pour le secteur de l'université liée au Conseil de défense de l'État au ministère de la Défense à Jakarta mercredi. Le dynamisme stratégique du développement environnemental à l'échelle mondiale, régionale et nationale a indiqué de grands défis et une complexité pour la défense de l'État, en particulier pour garder la souveraineté et l'intégrité du territoire. Ce défi a évalué à une menace stratégique pour la souveraineté et l'intégrité de la nation et le sauvetage de la nation. et il deviendra un défi multidimensionnel physique et non physique à l'échelle nationale et mondiale. Le ministre indonésien de la Défense, Riami Zetriakudu, a également expliqué que l'un des efforts pour faire face aux défis mondiaux est d'accroître la compréhension de la défense de l'État pour les Indonésiens. En prenant conscience de la défense de l'État pour les Indonésiens, l'Indonésie sera plus préparée et capable de faire face aux défis environnementaux stratégiques du développement international. Le président Joko Widodo a dit que la visite du président de la Banque mondiale, le docteur Jim Yong Kim, et sa délégation en Indonésie cette semaine, dans le cadre d'un voyage à l'avance d'une réunion de la Banque mondiale et le Fonds monétaire international l'année prochaine à Bali. Il a été dit par le président lors de la visite de Jim Yong Kim et la délégation au palais présidentiel de Jakarta mercredi. À cette occasion, le président Joko Widodo a exprimé son appréciation pour le partenariat solide de la Banque mondiale avec le gouvernement indonésien. La Banque mondiale a contribué à améliorer la structure et la qualité fiscale de l'Indonésie. La Banque mondiale a fait un travail important avec l'Indonésie dans l'éradication de la pauvreté, les investissements en capital humain tels que l'amélioration de la santé, l'éducation et la lutte contre le changement climatique. Jim Yong Kim a déclaré dans une conférence de presse que sa visite en région de l'Indonésie et le président Joko Widodo ont de grands idées pour le pays et le peuple indonésien. La Banque mondiale tiendra la réunion annuelle en Indonésie comme l'autre sera utilisé comme l'un des endroits dans le monde pour les investisseurs à investir. L'Indonésie et le Laos organisent la 5e réunion de la Commission conjointe pour la coopération bilatérale JCBC à Jakarta du 26 au 27 juillet 2017. Le ministère indonésien des Affaires étrangères a accueilli la 5e réunion de JCBC entre l'Indonésie et le Laos, comme indiqué dans un communiqué de presse du ministère des Affaires étrangères reçu par la Voix d'Indonésie à Jakarta mercredi. Le ministre des Affaires étrangères du Laos, Salem Sai Komasit, est venu en Indonésie pour assister à la réunion pour commémorer 60 ans de relations diplomatiques entre les deux pays qui ont été mis en place depuis 1957. Lors de la visite officielle, le ministre Salem Sai Komasit fera une visite de courtoisie au vice-président Yusuf Kalla. La 5e réunion de JCBC se compose de deux ordres du jour principaux, à savoir la réunion ministérielle qui se tient le 27 juillet 2017 et la réunion des hauts fonctionnaires tenue le 26 juillet 2017. La réunion ministérielle présidée conjointement par la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, et son homologue du Laos, Salem Sai Komasit. Pendant ce temps, la réunion des hauts fonctionnaires qui a précédé la réunion ministérielle a été dirigée par le directeur général pour l'Asie, Pacifique et l'Afrique du ministère indonésien des Affaires étrangères, Desra Percaya, et le vice-ministre des Affaires étrangères du Laos, Kam Fau Entavan. L'Indonésie et le Laos se sont engagés à renforcer la coopération économique bilatérale en explorant les possibilités d'investissement et d'améliorer l'interaction entre les deux secteurs économiques des deux pays. Chers auditeurs, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Rani, quelle brochure que tu lis?
Eh bien, Andy, je lis les brochures des sites touristiques d'Indonésie. Il s'avère que les amusants et stimulants. Les paysages sont aussi beaux. Dis donc, quel site dois-je choisir?
Pourquoi pas Joglo Semar? C'est abrégé de trois villes à Java: Yogyakarta, Solo et Semarang. Joglo Semar est l'une des 10 destinations touristiques en Indonésie. Ce n'est pas loin de Jakarta et le centre de Java.
Bien, comme ça, je viendrai à Joglo Semar.
Réalisez votre rêve de passer des vacances à Joglo Semar, Indonésie, en participant au quiz international 2017 de la Voix de l'Indonésie. Répondez aux questions suivantes. 1. Mentionnez des programmes de la Voix de l'Indonésie et quel est votre programme préféré? 2. Dans quel genre de programme écoutez-vous la Voix de l'Indonésie? 3. Dans quelle façon écoutez-vous la Voix de l'Indonésie? 4. Donnez des suggestions pour l'amélioration de la Voix de l'Indonésie. 5. Racontez brièvement ce que vous avez à propos de l'Indonésie. Envoyez, s'il vous plaît, vos réponses avec vos données personnelles, le numéro et la date d'expiration de votre passeport à voiinternationalquiz@voi.co.id avant le 1er août 2017. Bienvenue à l'Indonésie.
Chers auditeurs, un grand merci de votre fidélité d'écouter la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. C'est le temps maintenant pour nous de vous présenter le magazine culturel et l'Indonésie en couleur.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Bonsoir, chers auditeurs de la Voix de l'Indonésie dans le monde entier. Voici le magazine de la culture pour jeudi. Et ce soir, nous vous présentons sur le Festival de la culture Borneo. Chers amis dans le monde entier, vous savez, l'Indonésie possède la culture, le tourisme qui sont très diversifiés. L'un d'entre eux est la culture de Borneo dans l'île de Kalimantan. Pour préserver cette culture, on organise une activité qui sera ouverte par le président de la République Indonésie, c'est le Festival de Charme Culturel Borneo 2017. Si vous voulez savoir et voir le potentiel de la culture, le tourisme et l'investissement de l'île de Borneo, vous pouvez visiter Taman Mini Indonesia Indah ou le Jardin Miniature de l'Indonésie à Jakarta du 28 jusqu'au 30 juillet 2017. Selon le responsable du festival, en tant aussi que un des dirigeants de l'Assemblée nationale des autochtones Dayak, Madin Ramon, ce festival cette année sera plus vivant parce qu'il sera participé par des centaines de participants non seulement de l'Indonésie mais aussi la Malaisie, Singapour et Brunei Darussalam. Et puis, le thème du festival de Charme Culturel Borneo 2017 est par la culture, c'est-à-dire c'est le thème. Par la culture, nous construisons la communauté afin d'être plus prospère dans le cadre de la République unitaire de l'Indonésie. Selon le président de l'Assemblée nationale de Madin, M. Cornelis, cette activité est une représentation de la richesse de la sagesse locale de la communauté de tribes de Dayak sous la forme d'art et de la culture avec l'esprit de Bhinneka Tunggal Ika ou l'unité dans la diversité. En plus, pour viser comme un moyen de promotion et la publication de l'art et de la culture de Dayak et Kalimantan, c'est-à-dire Borneo, le festival vise également à établir des communications stratégiques de la commercialisation des produits régionaux dans tous les secteurs nationaux et internationaux. Chers amis, dans les quatre coins du monde, vous avez pour améliorer la créativité des communautés et gouvernements locaux dans le domaine de développement de la science, la technologie, les arts et de la culture. Pour vous avez ce festival a pour but pour améliorer la créativité des communautés et gouvernements locaux dans le domaine du développement de la science, la technologie, les arts et de la culture. Et plus, cette activité a aussi pour renforcer la compétitivité économique de la société de Kalimantan ou Borneo et comme un moyen de divertissement, l'interaction et la socialisation à la communauté et d'encourager la visite des touristes nationaux et étrangers. Dans ce festival de chant culturel Borneo 2017, il y aura aussi la danse de Kancet Papatai ou la danse de guerre qui raconte un héros Dayak Kenya qui se bat contre l'ennemi. Et aussi il y a la danse de Kancet Ledo qui raconte la douceur d'une fille. Et aussi la danseuse porte le costume traditionnel de Dayak Kenya et sur les deux mains tenant une série de plumes de la queue Kalao. Cette danse est généralement présentée sur un gong dont Kancet Ledo est aussi appelée la danse de gong. Chers British auditeurs et chers amis dans le monde, dans le quatre communs entiers, c'était le magazine culturel qui présente le festival de la culture Borneo ou Kalimantan. Merci de votre attention et fidélité. Au revoir.
Les couleurs, un programme sur les informations actuelles.
Bonsoir à tous, nous continuons notre émission avec une mise en couleur qui va vous informer sur le festival Lima Gunung 2017, soit le festival de 5 montagnes 2017. Donc, restez toujours avec nous, le service mondial de Radio République Indonésie, la voix d'Indonésie. Le 22 juillet dernier, on a lancé la prière rituelle des résidents de Gejayan, l'anthologie de la poésie dans ensemble avec la pluie par Eka Pradani, le discours culturel et la libération de 16 pigeons comme une série d'activités pré-événements du festival 5 montagnes 2017. Le festival 5 montagnes aura lieu du 28 au 30 juillet 2017 dans le Hameau Gejayan, au village Banyu Sidi, sous district Pakis, en résidence de Magelang, Jawa Central. Cette année, le festival 5 montagnes a pour thème « Soyons stupides ensemble ». Ce thème a été choisi délibérément comme la critique sociale sur le développement de la situation pour être réparé intelligemment par la communauté. Plusieurs 20 artistes vont exposer leurs œuvres intitulées « Pasca Mikir », soit « Après réflexion » lors du Festival 5 montagnes 2017. Chaque artiste présentera une ou deux œuvres chacun dans l'exposition qui aura lieu dans la salle de la culture Gejayan dans l'arène du festival. Ceux qui participent à l'exposition sont entre autres en provenance de la ville Magelang, Muntilan, Borobudur, Yogyakarta et Bali. Le thème Pasca Mikir dans l'exposition est le fruit d'une pensée de peintre sur une variété d'événements sociaux et les phénomènes naturels qui se sont produits au fil des ans. Avec l'exposition de peinture, un certain nombre d'artisans de batik tiendraient également une exposition au même endroit. Ils sont Agus Daryanto, Mami Kato, Arif Safari, Madame Supandi, Keli et Asrul Sani. Les œuvres de batik exposées sont batik contemporain, la peinture de batik et batik traditionnel. En outre, au moins 60 groupes datent des artistes de paysans de la communauté de Cinq-Montagnes et son réseau de plusieurs villes participent au festival. Cette année, le lieu du festival de Cinq-Montagnes est également si intéressant parce qu'il y a la scène principale avec l'ornement d'aigle géant en matériaux naturels et le feuillage. La scène est l'œuvre de deux artistes d'Amog Jayan, Parmadi Ma'arif et Superman. Le festival de Cinq-Montagnes est un festival qui a été initié par la communauté de Cinq-Montagnes. Cette communauté est une communauté de certains habitants dans nombre de villages qui vivent dans des zones entourées de cinq montagnes à Magelang, Java Central, à savoir les montagnes Merbabu, Merapi, Sumbing, Andong et Menore. La plupart d'entre eux étaient des agriculteurs et en même temps artistes dans chaque groupe dans chaque village. Cette communauté est initiée par Sutanto Mendut, humaniste. Le festival qui est organisé par la communauté des agriculteurs des artistes à ce jour est largement connu, même à l'étranger, principalement en raison d'être appuyé sur la force de la famille et l'esprit d'indépendance. Chaque année, le festival a lieu en plus de la préservation de la culture javanaise, ainsi que la collecte, ainsi que de fournir un forum pour les artistes à Magelang pour la créativité. Chers amis, c'est un émission clôture pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt.
Nous vous rencontrons demain avec les autres couleurs sur l'Indonésie.
Rani, quelle brochure que tu lis?
Eh bien, Andy, je lis les brochures des sites touristiques d'Indonésie. Il s'avère que les tamusang et stimulant. Les paysages sont aussi beaux. Dis donc, quel site dois-je choisir?
Pourquoi pas Joglosemar? C'est abrégé de trois villes à Java, Yogyakarta, Solo et Semarang. Joglosemar est l'une des 10 destinations touristiques en Indonésie. Ce n'est pas loin de Jakarta et le centre de Java.
Bien, comme ça, je viendrai à Joglosemar.
Réalisez votre rêve de passer des vacances à Joglosemar, Indonésie, en participant au quiz international 2017 de la Voix de l'Indonésie. Répondez aux questions suivantes. 1. Mentionnez des programmes de la Voix de l'Indonésie et quel est votre programme préféré? 2. Dans quel langue de programme écoutez-vous la Voix de l'Indonésie? 3. Dans quelle façon écoutez-vous la Voix de l'Indonésie? 4. Donnez des suggestions pour l'amélioration de la Voix de l'Indonésie. 5. Racontez brièvement ce que vous avez à propos de l'Indonésie. Envoyez, s'il vous plaît, vos réponses avec vos données personnelles, le numéro et la date d'expiration de votre passeport à voiinternationalquiz@voi.co.id avant le 1er août 2017. Bienvenue à l'Indonésie.
Chers auditeurs, nous finissons notre programme avec le magazine musical.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers auditeurs. Merci d'écouter la voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le programme musical. Vous pouvez écouter nos émissions sur la fréquence de 9525 kHz ou en streaming de www.voi.ac.id. En outre, vous pouvez également écouter nos émissions par l'application sur RRI Play. Pour l'édition de ce soir, nous vous présentons une chanteuse pop d'Indonésie qui s'appelle Mayang Sari. Voici la première chanson intitulée « Il n'y a plus ». Bonne écoute.
Sia-sia sudah kita jalin cinta, bila hati selalu berbeda. Sampai kapan lagi ku harus menahan rasa kecewa dalam dada. Seandainya kita masih bersatu, tak mungkin kan menyatu. Walau masih ada sisa cinta, biarkan saja berakhir sampai di sini.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
C'était notre programme pour ce soir. Rendez-vous demain, même heure, même fréquence. À bientôt.
Radio République Indonésie, service international, la voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonésie, service international, la voix d'Indonésie. Présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à Émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonésie, Jalan Medan Merdeka Barat 4-5, Jakarta, ou PO Box 1157, Jakarta 1011, Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voix Indonésie. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.